Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Du vent dans les pages en direct de Studio Zef. Une émission qui vous parle de livres et d'auteurs, mais aussi de salons du livre jeunesse, par exemple. C'est donc le sujet d'aujourd'hui, puisque Délire de lire ouvrira ses portes au public du 15 au 17 mars à Saint-Gervais. Alors, demandons le programme à Catherine Bonny, fidèle animatrice de notre émission, mais aussi conseillère municipale de Saint-Gervais et co-organisatrice du salon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine, je disais que tu étais co-organisatrice du salon. Alors, oui. Ça fait combien de temps maintenant que le salon existe ?
Eh bien, on prépare la quatrième édition. Quatrième édition.
Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a toujours autant de monde, de plus en plus même.
Mais oui.
Voilà. Oui. Alors, première question, le thème, c'est quoi ?
Le thème, il était une fois. On va être dans les contes, dans les contes. C'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Ouais, tout un programme, quoi.
Voilà.
Peut-être qu'on va commencer tout de suite par... on va commencer par présenter le parrain de l'édition.
Oui, donc c'est le principe de notre salon. Enfin, comme beaucoup de salons d'ailleurs, on a chaque année un parrain différent. On a aussi des auteurs différents qui viennent, mais le parrain est différent. Donc évidemment, c'est l'invité d'honneur. On le chouchoute et on le soigne. Et en plus, on a le plaisir qu'il réalise l'illustration de l'affiche, enfin tout ce qui est illustration de l'affiche, de la page du programme, etc. Mm-hmm. Donc, cette année, on a été gâtés tous les ans, mais on a toujours l'impression que cette année, donc, notre invité, c'est Benjamin Lacombe. Alors, je crois qu'il est connu de tous parce qu'il y a beaucoup d'adultes accros aussi du talent de Benjamin Lacombe.
Ouais.
Alors, c'est vraiment un des représentants phares de la nouvelle illustration française. Et en fait, il écrit son premier album pour les enfants est sorti en 2006. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et exactement, son premier album a tout de suite été traduit aux États-Unis. Il a été même récompensé, sélectionné par le prestigieux hebdomadaire Time Magazine comme l'un des 10 meilleurs livres jeunesse de l'année 2007. Donc, vraiment, il a tout de suite rencontré un franc succès.
Voilà. Ouais.
Et depuis, il a déjà publié une trentaine d'albums pour les enfants.
Ah oui, voilà. Productif le monsieur.
Productif,
hein.
mais de grands talents également, parce qu'il a vraiment une technique, une illustration. Une fois qu'on a rencontré, croisé la patte de Benjamin Lacombe, on a du mal à l'oublier en fait.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Donc, tu disais que c'était une habitude d'accueillir toujours un par un.
Oui.
Donc, est-ce qu'il est présent sur tout le salon ?
Ah, il est présent sur tout le salon.
Ouais, il participe à plusieurs...
Il participe aux rencontres. Alors, il fait même plus que les autres, parce que, comme tous les auteurs invités, enfin, à part quelques exceptions, j'en parlerai plus tard, les auteurs vont tous intervenir dans des classes pendant les deux jours qui précèdent le salon, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi qui précèdent, et même certains encore le mercredi matin, car il y a encore des possibilités le mercredi matin. Mais le parrain, en plus, on lui demande d'animer la demi-journée professionnelle où il parle de son travail, voilà, de ses techniques, etc. Donc, il en fait un peu plus que les autres.
D'accord.
Et en plus, on présente toujours une exposition du travail, enfin des œuvres du parrain. Donc, cette année, il y aura évidemment une exposition Benjamin Lacombe.
D'accord.
Et du fait de nos moult partenariats, on aura les Blaisois et tous les gens du département auront le plaisir, évidemment, de voir cette exposition pendant le salon, mais même en amont, puisqu'elle sera présente sur Blois pendant 3 semaines. Donc, l'exposition de Benjamin Lacombe sera présente à la Maison de la BD dès le 27 février. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
Ah,
je crois que c'est ça, le 27. En fait, on l'inaugure le mardi 26 au soir, elle est ouverte au public dès le 27.
D'accord.
Alors, pour les classes, mais pour les familles, pour tout le monde.
Très bien.
Donc, ça permet une plus grande visibilité de son travail.
Très bien, super. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'avant l'ouverture au public, il y a des temps où il va y avoir des rencontres scolaires.
Voilà.
Voilà. Alors, c'est quoi le principe ? Comment ça fonctionne ?
Alors, ça a été dès le début notre projet, c'est-à-dire faire un salon du livre juste pour inviter des auteurs et qu'ils soient là un peu comme des potiches à attendre le chaland et à signer dédicaces. C'est pas ce qu'on cherchait. Nous, le but de Salon du livre, c'était vraiment... faire découvrir le livre, mais sensibiliser les enfants et leurs familles à ce monde merveilleux qu'est le livre. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin que de survoler les jolies couvertures illustrées. Donc, il y a un vrai travail de fond. Donc qui se fait en amont. Alors, j'ai dit que les auteurs allaient dans les classes les deux jours précédents, mais le travail a commencé bien plus tôt dans les classes, bien plus tôt. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine avec les enseignants. Et puis, c'est vrai que dès le début, notre chance, mais on n'a pas que de la chance, c'est-à-dire que c'est ce qui a été voulu dès le début, il y a eu un partenariat qui a été développé avec l'éducation nationale, tout de suite. Oui. Et c'est ce qui fait, je crois, aussi largement la force et le retentissement de notre salon.
Alors, ce partenariat, ça pu donner aux classes et aux enseignants la possibilité, les moyens logistiques aussi de pouvoir rencontrer les auteurs, de pouvoir faire des émissions, enfin des ateliers peut-être.
Alors les ateliers, c'est-à-dire l'accueil de classe, chaque école, chaque classe gère, ils ont un budget, ça c'est pas, ils ne demandent pas l'autorisation à l'éducation nationale.
Je me doute, oui.
Mais le fait que ce soit une manifestation reconnue, donc permet peut-être plus facilement de communiquer sur ce salon. Et puis, il y a des aides réellement importantes tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers pédagogiques dans l'éducation nationale et il y a des conseillers pédagogiques qui sont nos partenaires privilégiés. Alors, j'ai un peu de mal à le dire parce que quand on a créé, il y avait deux conseillères pédagogiques qui étaient vraiment nos interlocutrices privilégiées, enfin qui font partie de l'équipe d'organisation depuis le début. Bon, elles ont toutes les deux arrêté leur fonction officielle, mais continuent à fond le salon. Ouais. Et on a toujours un interlocuteur directement en place, conseiller pédagogique. Donc, il y a un véritable suivi qui se fait, une reconnaissance de ce travail. Mais le partenariat va même au-delà. Pour donner un exemple, tous nos auteurs, cette année on a 23 auteurs qui vont aller dans des classes, c'est surtout le département, les classes, donc c'est quand même un grand territoire, donc chaque auteur normalement est pris en charge par un bénévole qui va l'emmener en voiture dans sa classe, etc. Là on a des bénévoles de luxe puisque ce sont les conseillers pédagogiques eux-mêmes qui vont prendre en charge les auteurs. Ça veut dire que l'éducation nationale accepte que ces conseillers, sur leur temps de travail, donc au moins sur deux jours à fond, soient mis à disposition, entre guillemets, du Salon du Livre. Donc l'aide est très importante.
Oui, tout à fait. Donc ce partenariat, les rencontres scolaires, se font à partir de février, là.
Alors, les rencontres scolaires elles-mêmes, c'est juste les deux jours précédant le salon.
C'est les deux jours précédents,
d'accord. Où les auteurs, c'est-à-dire que là, les auteurs en général arrivent à Blois le mercredi, et d'accord. Puis le jeudi, vendredi, ils sont dans les classes.
Très bien.
Mais il faut savoir que nous, on travaille bien en amont, c'est-à-dire que dès le mois de juin, on envoie un courrier aux classes, enfin aux enseignants, en leur proposant, en leur envoyant déjà une liste des auteurs qui seront invités, donc c'est 9 mois en avance, pour que déjà ils fassent une sorte de préinscription en nous donnant un peu, disons, les deux, trois auteurs qu'ils aimeraient accueillir dans leur classe. Donc il y a tout un travail de préparation de cet ordre. Et puis en octobre, tout début octobre, en général c'est fin septembre, début octobre, il y a une grande réunion où sont donc invités tous les enseignants qui le désirent. Et là, donc, Corinne Renard et Pascal Josserand, c'est surtout Corinne Renard, donc l'ancienne conseillère pédagogique, qui assure le choix des auteurs et le lien avec les classes, puisqu'elle connaît ça par cœur, évidemment. Oui. Donc, elle présente les auteurs, elle présente les livres, car grâce à notre partenariat avec les libraires nous prêtent les livres, donc c'est important aussi. Et c'est à partir de cette réunion, vraiment, que se calent les choix définitif, si on peut dire, des classes.
D'accord.
Voilà. Donc, ça commence en octobre. Mmh. Et une fois que les enseignants savent quel auteur viendra dans leur classe, eh bien, ils commencent. Alors, tous ne travaillent pas sur le même rythme, la même durée, mais en règle générale, ils peuvent commencer très tôt. D'abord, ils vont être en lien avec l'auteur qui va venir, donc ils peuvent échanger avec lui pour caler la façon dont il va intervenir, s'il travaille sur toute l'œuvre, sur un album précis. Donc, il y a toute une démarche qui doit être définie entre eux. Mais ça veut dire que les enfants peuvent travailler 2 mois, 3 mois avant de voir l'auteur. Donc, on imagine leur impatience.
Je vois où tu veux en venir.
Donc, voilà. Ouais, donc, c'est un travail de longue haleine, en fait.
Alors, Si tu veux bien, on va parler des auteurs, hein, des illustrateurs qui sont présents. Alors, ils sont combien cette année? Parce que l'édition dernière, ils étaient, ils étaient pas mal, déjà.
21,
hein,
je crois, dans les classes, quelque chose comme ça. 20, je crois, dans les classes. Ouais. Alors, cette année, ils sont 23. Mm-hmm. Alors, ils sont 23 dans les classes. Alors, il n'y a pas que des auteurs. Alors, disons qu'il y a 20 auteurs, illustrateurs purs. Deux jeunes femmes qui sont auteurs, mais qui sont aussi surtout conteuses. Elles font des spectacles, mais elles écrivent aussi, elles publient. Donc, elles sont à la fois auteurs, conteuses, etc. Et là, la 23e personne, en fait, est éditrice. Mmh. Et c'est elle qui nous a proposé de faire des ateliers. On n'aurait pas pensé. Et en fin de compte, elle va parler au plus grand. Hein, aux grands du primaire, voire au collège, puisqu'on a pas mal de collèges qui participent aussi, parler de ce qu'est le métier d'éditeur. Des tas de gens, même adultes, ne savent pas du tout ce qu'est le métier d'éditeur. Donc, c'est une façon d'aborder cette chaîne du livre, comment ça marche quand l'auteur a fini ses gribouillis sur son papier ou sur son ordinateur, comment ça évolue, comment ça arrive sur les tables des libraires, en fait. Et bon, je crois que c'est aussi intéressant d'avoir cette démarche.
Tout à fait. Alors, ces auteurs seront prêts. On peut les voir. Donc, ils ont des stands. Comment ça se passe concrètement?
Pendant les deux jours, on les voit pas. Ils sont dans les classes. D'accord. Ils appartiennent aux enfants. Et puis, dès le vendredi soir, puisque le salon ouvre le vendredi à 16h, ils sont en général là. Hein. C'est plus facile les dédicaces le samedi et le dimanche parce qu'il y a une disponibilité plus grande. Mais ils sont là. Ils sont évidemment présents sur les stands, soit des libraires, pour une grande majorité, soit des éditeurs présents, puisqu'il y a des éditeurs qui ont leur stand. Et là, sur le stand, eh bien, c'est le plaisir de les rencontrer, de parler avec eux, d'avoir des dédicaces. Souvent, les illustrateurs, ce sont des dédicaces merveilleuses. Mais ils font encore plus que ça. C'est-à-dire que malgré le nombre de classes qui participent, ça représente cette année 157 classes. On ne doit pas être loin de 3800 enfants scolaires qui vont recevoir un auteur. Mais évidemment, ça ne représente pas toutes les classes du département. Donc, on a des enfants qui viennent que pendant le salon grand public. Et là, un certain nombre de ces auteurs présents va faire des ateliers encore accessible pour les enfants.
D'accord.
Donc ça peut être des initiations à l'aquarelle, à la sérigraphie, à l'écriture. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'ateliers disponibles. Tout est gratuit.
Oui, c'est important
c'est
bien de le
dire. Donc ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir un auteur dans sa classe peut encore avoir un atelier et créer, essayer de comprendre un peu le secret de cette fabrication des livres.
Je pense qu'on va avoir le temps de survoler un petit peu tout ce qui va se passer dans ce salon, mais bien
peut-être.
Hein, voilà. Notre amie Anne n'est pas présente parce que c'est une émission spéciale Salon du Livre Jeunesse. Voilà. On va continuer si tu veux bien. Tu parlais tout à l'heure de spectacle. Alors, j'ai cru voir dans le programme qu'il y avait deux dames, je crois. Alors, est-ce que c'est de ces dames-là dont tu parlais?
Oui, je vois. Ce sont les conteuses.
Hein, c'est sur les conteuses, voilà. Alors, c'est un spectacle pour tout public, hein, ou plutôt pour les petits?
Alors, le principe de nos spectacles, c'est des spectacles pour enfants, bien sûr.
Mais celui-ci, précisément,
mais, les adultes s'amusent beaucoup aussi. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a d'autant moins de problèmes que les autres années. C'est que les autres années, on faisait les spectacles dans une salle que nous avons qui peut contenir, 70 personnes, donc c'est pas beaucoup. Donc, s'il y a un enfant avec un parent ou deux, c'est vite rempli. Ouais. Cette année, Saint-Gervais ne recule devant aucun sacrifice. Le spectacle aura lieu dans l'espace Jean-Claude Deray, donc 200 places, donc beaucoup plus souple si les parents veulent venir avec leurs enfants.
Très bien.
Enfin, pour les petits, c'est normal. Le spectacle des deux conteuses, ça commence à partir de 3 ans, donc on se doute bien qu'il y aura au moins un parent à chaque fois.
Oui, évidemment.
Voilà. Donc, ce sont deux conteuses qu'on a d'ailleurs découvert dans le cadre de, je crois que c'est Festilésime, parce qu'elles ont été... C'est Festilésime, oui, je ne sais plus. Oui, peut-être. Elles ont été invitées à Vineuil, à la bibliothèque, et c'était tellement drôle, tellement pertinent que, voilà. Même en tant qu'adulte, on était heureux comme tout. On s'est dit que les enfants devraient être aussi heureux comme tout. Et puis, elles sont sur le thème du conte. Hein. Elles sont en plus dans le sujet. Donc, toutes les deux viennent d'en faire un spectacle qui s'appelle Floppy Floppy. Et donc, où elle nous emmène. Alors, c'est amusant parce qu'il y en a une qui est bretonne, l'autre qui est italienne. Donc, il peut y avoir des...
Ah, intéressant comme mélange. Ouais.
Il y a des grands sauts dans le, dans le temps. Mais elles sont d'une énergie, un rythme. Enfin, on a du mal à rester impassible devant ce genre de spectacle. Et elles vont également être dans les classes les deux jours précédents.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux rappeler quand ça se passe et où ça se passe ?
Alors, les spectacles, ce spectacle-là, c'est le samedi 16 mars, donc à 15h. Mm-hmm. Et il y en a une deuxième spectacle.
Fournée.
Deuxième, voilà, le dimanche à 11h.
Oh,
donc,
très bien.
Ceux qui ne peuvent pas venir le samedi, ils peuvent venir le dimanche.
Très
voilà.
Bien.
On essaie de faire ça pour les spectacles. On a un autre spectacle aussi à partir de 3 ans qui s'appelle Le Buveur de Livres.
Ouais.
Et de la même façon, alors là, c'est en déambulation, mais il y en aura le samedi et le dimanche. Donc, ceux qui ne peuvent venir que le dimanche ne se désespèrent pas. Il se passe plein de choses aussi le dimanche.
Oui, oui, oui. Alors, on continue dans le programme avec... Il y a des expositions, alors. Les expositions.
Oh
et puis, il m'a semblé voir aussi un projet d'art plastique.
Voilà. Alors, ça fait partie des expositions, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Donc, tout ça, c'est ensemble. C'est pas fait par les mêmes personnes.
Pas du tout, oui, oui. Alors, les expositions, à chaque fois, on se dit, on va en faire moins parce que c'est tellement de travail.
Ouais, ouais.
Et puis, on a encore craqué. Alors, c'est aussi intéressant, je pense, pour les enfants comme pour les grands, de voir vraiment des originaux. Un livre, évidemment, c'est sorti de l'imprimerie, c'est différent, mais de voir... Comment elle travaille à l'origine ? Alors, des originaux, quand les créateurs travaillent avec des pinceaux, etc. C'est vrai que certains travaillent directement sur ordinateur. Mais c'est aussi des techniques qui peuvent être intéressantes parce qu'il y a quand même des étapes. Donc, on a pas mal d'expositions, exactement. Alors, la première, j'en ai un petit peu parlé, c'est celle de Benjamin Lacombe qui s'appelle « Les deux Alice ». Alors, Alice au Pays des Merveilles. Donc là, on aura une quarantaine d'originaux donc qui viennent de deux albums différents. Il y a Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir. Alors, en plus, c'est intéressant parce que Benjamin Lacombe, il utilise des tas de techniques différentes. Donc, on voit à la fois des gouaches, de l'huile, de l'encre de Chine, du Posca, là, les gros crayons comme des gros feutres.
Comme
Posca,
des gros feutres,
voilà.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et voilà, ça donne une richesse et une variété de palettes, en fait, très intéressante. Puis, ça peut être... Il traite des grands classiques, mais il a un côté parfois surréaliste, voire subversif, très intéressant. Donc, c'est cette exposition qui sera à la Maison de la BD à partir du 26 février. Et puis, donc, qui sera là dès le vendredi soir. Donc, il y a des petites mains derrière qui doivent installer à toute vitesse.
Oui, oui, on parlera des petites mains tout à l'heure.
Sinon, la deuxième exposition, donc, c'est une exposition qui s'appelle « Voyage dans les contes » avec Clotilde Perrin. Donc, Clotilde Perrin est une des autrices ou auteures qui est invitée. Donc là, cette exposition, de la même façon, le public aura la chance de pouvoir la voir pendant 3 semaines, puisqu'on a fait un autre partenariat. Enfin, on est déjà partenaire avec la librairie de l'espace culturel Porte-Côté. Mais là, en plus, il y aura une exposition. Cette exposition sera dans son espace exposition. Donc, dès le 27 février, de la même façon, l'exposition sera visible du 27 février au 13 mars. Et puis le 14 mars, les petites mains iront l'installer pour que ce soit prêt pour notre salon.
Formidable.
Voilà. Alors, on en a d'autres.
Oui.
Alors, je vais continuer avec la troisième exposition qui sera également représentée pendant 3 semaines. On a travaillé depuis l'année dernière. On a multiplié les partenariats.
Je vois ça, oui.
En fait, il y a une autre illustratrice qui est invitée qui s'appelle Clémentine Sourdet et qui, alors, c'est pas du tout le principe des cadres suspendus puisqu'elle travaille un peu dans la découpe laser comme on avait vu déjà l'année dernière avec Guillopé et elle fait tout un travail, c'est fascinant, c'est de la dentelle et c'est extraordinaire et donc on va voir tout ce travail qu'elle va nous présenter dans une exposition avec des livres en accordéon, je pense au Petit Chaperon Rouge qui est très très beau qu'elle a fait, enfin il y a beaucoup de contes. Et là, elle sera présentée. Donc, c'est un nouveau partenariat avec Vineuil, puisque cette année, on a un vrai, solide partenariat avec la ville de Vineuil qui nous suit, nous aide, nous tout. Et elle sera donc présentée à la bibliothèque de Vineuil dès le 26 février et jusqu'au 13 mars, de la même façon.
Très bien.
Voilà.
Bon.
Alors, sinon, il y a une autre exposition. Alors, là aussi, c'est lié à un partenariat. Ça va dans tous les sens. Alors, les années précédentes, BD Boom avait un stand et venait participer au salon, puisqu'ils avaient des auteurs avec des projets. Donc, cette année, ils n'ont pas tenu à venir tenir un stand parce qu'ils n'avaient pas assez d'actualité dans notre domaine jeunesse. Mais ils ont eu la bonne idée de nous prêter une exposition. Et c'est l'exposition de l'album « Mystère à la maison de la magie ». Donc, qui nous concerne directement, bien sûr, parce que ça raconte la maison de la magie. Les dessins sont de Laurent Tardy. Laurent Tardy était venu il y a 2 ans au salon. Donc là, il y a une entorse, il y a quelqu'un qui revient. Mais il y a une telle actualité que c'est quand même très sympathique. Donc, il y aura l'exposition, il y aura les 2 auteurs. Laurent Tardy est là pendant les 4 jours, mais celui qui a écrit les textes, Thierry Bonnera, sera là sur le salon grand public. Donc présent sur le stand de... j'ai un petit moment de doute, je crois que c'est... Je ne sais pas de bêtises, ça doit être... Voilà, c'est sur le stand Bill Bokeh, de l'éditeur. Bokeh,
oui,
on l'éditeur, pourra reparler de,
oui, oui,
des stands.
On parlera, et tout ça. Oui, oui, les stands. Ouais.
Il ne fallait pas me lancer sur les expos, il y en a. Hein.
Oui, oui, mais...
Alors, il y a donc ces 3 grosses expos de 3 auteurs présents. Sinon, on laisse un peu une carte blanche à nos éditeurs locaux, régionaux, je ne sais pas comment dire, s'ils veulent mettre un petit coup de projecteur sur un des auteurs invités. Donc, ce sera le cas cette année. Culture présentera des planches originales donc, tirées d'un album de Minji Lee Diebold, qui est présente sur le salon, qui s'appelle « La fille et le cheval blanc ». Donc, il y aura à peu près 6-7 originaux, mais ça donne une idée du travail. Et de la même façon, les éditions Et l'envers, qui sont à Saint-Pierre-des-Corps, vont présenter quelques planches tirées des albums de Anne Crahé, des albums qui ont été, bien sûr, publiés, édités par Les l'envers. Donc là, également, on aura des présentations d'originaux. Et puis, alors, il y a une petite innovation cette année. On s'est lancé.
Encore
là, c'est la grande folie.
Vous êtes insatiable.
Hein. Oui, c'est fou. Mais après, quand on doit monter tout ça... Eh bien, voilà. On a quelques fans dans le groupe d'organisation du Petit Chaperon Rouge.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Ils sont accros. Mais c'est pourtant des grands. Hein. Ils collectionnent les livres et tout. Donc, ça titillait certains de faire une exposition autour du Petit Chaperon Rouge et du Grand Méchant Loup. Donc là, on va la construire. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'originaux, c'est sur cette thématique. Donc on va recréer l'atmosphère avec la maison de la grand-mère, le petit chaperon rouge qui traverse la forêt, le loup. Enfin, là, il y aura une atmosphère âme sensible s'abstenir. Hein. Le loup ne sera jamais très loin. Hein. Et donc, on va présenter en même temps, grâce au partenariat avec les bibliothèques Aglopolis et le partenariat avec les bibliothèques départementales de près, un certain grand nombre d'albums qui tournent autour de cette thématique. D'accord. Puisqu'il y a eu beaucoup de petits chaperons rouges, et puis il y a eu du chaperon rouge détourné, le petit chaperon bleu, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une de nos folies de l'année. Bon, j'espère que ça rencontrera son public et que ça fonctionnera à fond.
Est-ce qu'on a fait le tour des expositions encore ?
Mais non, parce qu'il y a l'exposition des œuvres des enfants.
Ah bah oui, évidemment, faut
qui est quand même
les pauvres.
Une exposition très très importante.
Ah ouais.
Alors la particularité, c'est que ça c'est un travail de fond puisque dès le début, il y a eu en plus du travail de préparation, d'accueil de l'auteur dans la classe, toujours un projet d'art plastique dans les classes en parallèle. Avec une thématique qui essaie de se rapprocher évidemment de la thématique de l'année. Alors cette année, ce qui a été proposé, alors c'est une autre ex-conseillère pédagogique, Pascal Josserand, qui travaille sur ce domaine parce que c'est vraiment son domaine de prédilection et de larges compétences, donc a proposé aux classes, donc accueillant un auteur-illustrateur, de travailler sur la dualité des contraires. Parce que c'est souvent une thématique qu'on rencontre dans les contes, l'histoire des contraires complémentaires. Le bon et le mauvais, le gentil et le méchant, le bien et le mal, le beau et le laid, enfin ça, le lieu clos, le lieu ouvert, la fée et la sorcière, le libre et le prisonnier. Enfin voilà, c'est des thématiques qu'on rencontre régulièrement. Donc ils vont travailler à partir de cette thématique et ils doivent chaque classe doit réaliser, faire une œuvre plastique. Donc il doit réaliser un diptyque en 2 ou 3 dimensions, mettant en scène cette dualité en opposant au choix des personnages, des lieux, des objets magiques, des formules magiques. Voilà. Et parallèlement à ça, évidemment, pour l'enseignant, c'est une façon de faire découvrir des œuvres d'art pour se cultiver, pour féconder son imagination et étudier les contraires, les contrastes, les oppositions qui peuvent être à travers la couleur, la ligne, la forme, la lumière, la matière, la texture, la composition. Ça peut être, alors on s'est amusé à mettre dans, ça vous pouvez pas le voir à la radio, mais on montrait des extrêmes où il y a une œuvre de Niki de Saint-Phal avec ses femmes
très colorées, très rondes.
Ouais. Et puis il y a une sculpture de Giacometti, donc très fine. Filiforme. Donc c'est un peu pour leur donner des idées, de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut exprimer avec l'art. Donc une fois que ces œuvres sont réalisées, toutes ces œuvres sont apportées au salon et il y a une grande, très belle expo. Vraiment bien, c'est merveilleux ce que font les enfants. Donc qui est monté dans une grande salle qui se trouve à l'école maternelle puisqu'on envahit tous les locaux dans
tout
le coin.
Tout l'espace.
Et voilà, et on met en scène, on met en espace, en volume toutes les œuvres des enfants. Et c'est superbe.
Ah, formidable. Et ça sera visible dès le vendredi.
Dès le vendredi soir.
Oui. Très bien.
On attend que l'école soit fermée pour aller faire des tours, parce que quand même, il y a encore l'école. Ouais. Mais bon, vendredi soir, peut-être pas tout de suite, mais le samedi dimanche, de 10h à 19h et de 10h à 17h30 le dimanche, c'est tout le temps ouvert.
Super. Catherine, je te propose une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Et voilà, vous êtes toujours dans Du vent dans les pages, spécial délire de lire, salon du livre de la jeunesse. Et on vient d'entendre la merveilleuse Cassandra Wilson avec le titre Fragile. Catherine, tu es toujours avec nous.
Eh oui, je tiens le coup.
Voilà, tu tiens le coup. En plus, tu présentes tellement bien le salon. Bah, tu vas continuer.
Bon, ben, il n'y a pas le choix. Hein. Puis, j'ai signé.
Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des librairies, alors ? Parce que tu as parlé...
Bah, je peux parler, bien sûr, des librairies. Je vais parler des exposants, qui sont là, en fait.
Qui sont là, voilà.
Alors, évidemment, les librairies, c'est important parce que ce sont des partenaires de la première heure. Quand on a eu l'idée de créer ce salon, on est tout de suite allé voir donc, la librairie Labbé et l'espace culturel Porte-Côté, les deux librairies blésoises, pour savoir s'ils étaient partants. Et tout de suite, ils ont dit qu'ils étaient partants. Donc, c'est important pour nous. Donc, leur rôle, en fait, ils ont des très grands stands parce que le principe, c'est que un auteur, il est représenté par un éditeur. Les éditeurs ne sont pas tous là, donc ce sont les libraires qui présentent les auteurs. Donc ils se partagent les auteurs pour les dédicaces, parce que c'est quand même, j'allais dire, logistiquement un énorme travail. Je veux dire, ils viennent avec des milliers de livres. Hein. C'est inimaginable. Mmh. Quand arrive le vendredi matin le camion qui déboule les livres, on se dit oh là 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 là. Pour donner un peu une idée, c'est l'année dernière, pendant le salon, il y a eu à peu près 2000 livres de vendus. Donc, c'est quand même pas négligeable.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est important. Donc, ces deux libraires, ils sont présents pendant tout le temps du salon, mais ils sont aussi des partenaires, même bien en amont. J'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que les auteurs sont choisis, ils prêtent. Chacun prête les livres d'abord à la collègue qui s'occupe du travail sur les auteurs, pour avoir un peu matière très large, donc pouvoir lire ou relire la majeure partie des livres des auteurs invités. Après, donc, ils prêtent les livres pour la présentation aux enseignants. Enfin, il y a un suivi permanent. Il y a des choses toutes bêtes. On peut être emballé par un auteur, par un des livres de l'auteur, mais s'il est épuisé, s'il n'est plus accessible... Enfin, le libraire nous répond sur toutes ces questions. Donc, ce partenariat est très important. Alors, ça, c'est ce qui concerne les libraires. On a d'autres partenaires de la première heure. Quand on a créé le salon, on a quand même voulu aussi donner un coup de projecteur sur les éditeurs jeunesse de notre région. Ce ne sont pas du tout des éditeurs régionaux. Ils sont dans la région, mais ce sont des éditeurs nationaux et même au-delà. Mais c'était important parce que souvent, personne ne connaît les éditeurs. Hein. On va chez le libraire, mais voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des éditeurs très proches de nous, puisqu'il y a un éditeur jeunesse à Vineuil. Hein, il faut traverser la rue. Donc, ce sont les éditions Bilboquet qui, dès la première année, étaient présents. Il y a les éditions Onkfé Culture qui se trouvent à Amboise, donc on n'est pas très loin. Et puis les éditions de L'Élan Vert qui se trouvent à Saint-Pierre-de-Corps, donc près de Tours.
Donc, est-ce que tous ces éditeurs sont uniquement spécialisés dans le livre jeunesse ou c'est plus large?
Je crois que Bilboquet, oui. Hein, Bilboquet, oui. Onkfé, oui. Et L'Élan Vert également. La première année, on avait un quatrième éditeur jeunesse qui était les éditions S, que les Blésois connaissent bien. Mais comme Jacques S a arrêté, alors lui, il publiait des livres jeunesse, mais beaucoup d'autres choses. Hein. Il y avait une grande richesse dans son catalogue. Donc, il n'est plus parmi nous pour venir présenter des livres. Voilà. Et donc, les éditeurs, depuis le début, ces trois éditeurs ont eu un stand. Donc, on met à disposition un stand aux éditeurs et eux-mêmes, donc, ont des auteurs. C'est-à-dire que les auteurs publiés par eux sont sur leur stand. Voilà. Alors, il y a des façons différentes de faire. Onkfé Culture est en lien avec la librairie Labbé et c'est le stock, j'allais dire, de la librairie Labbé qui leur sert pour les ventes. L'Élan Vert est en lien avec l'espace culturel Porte-Côté. Voilà, là, il y a lien. Bilboquet vend en direct, c'est leur choix. Donc ça, chaque année, jusqu'à maintenant, on les a retrouvés. Mais dès la première année, on a eu envie d'inviter une ou deux petites maisons d'édition ou jeunes maisons d'édition pour faire connaître aussi des nouvelles maisons. Alors, cette année, on a invité, que je les retrouve, deux petites maisons d'édition, enfin petites ou enfin, déjà pas mal, mais indépendantes. Hein,
donc,
c'est toujours notre principe.
Toujours dans la région ?
Non, pas
non,
du tout,
pas
là,
du tout.
En général. Alors,
d'accord.
On a même fait plus fort, parce qu'un des deux vient de Belgique.
Bon.
Ah non, mais on ne recule devant.
On
c'est un
aime.
Salon international, madame.
C'est ça.
Donc, c'est une maison d'édition. On avait eu vraiment un peu le coup de foudre sur sa ligne éditoriale. On les avait rencontrés donc, au Salon de Montreuil, qui est un salon spécialisé jeunesse.
Voilà. Salon du livre,
Et cette maison d'édition s'appelle « À pas de loup ». Donc, c'est une maison qui a été créée, en fait, à l'origine par une Française qui s'appelle Laurence Nobécourt, qui a été enseignante pendant 25 ans, passionnée de littérature jeunesse et qui, à un moment, s'est jetée dans la gueule du loup. Mmh. Voilà. Et donc, c'est elle qui nous fait le plaisir de venir tenir un stand. Mais elle fait plus puisqu'elle va intervenir dans les classes pour parler de ce métier d'éditeur. Et donc, il y aura évidemment des auteurs sur son stand. Deuxième maison d'édition qu'on a invitée cette année. Alors, ça s'appelle les Éditions du Jasmin. C'est une maison qui est plus ancienne. Elle a été créée en 97. Mais c'est une maison qui a toute une collection autour du conte. Du conte du monde entier. Et on s'est dit que c'était quand même...
Ça tombe bien.
Une chance. Mmh. Voilà. Donc, on aura également les Éditions du Jasmin. Alors, ce qui fait que, par exemple, sur le stand des Éditions du Jasmin, il y a une auteure qui est invitée, qui ne vient pas sur les journées professionnelles, mais qui sera présente au salon, qui est également une conteuse, d'ailleurs.
Ouais.
On est très marqués cette année. Donc, voilà les maisons d'édition et les libraires présents.
Oui, parce qu'on rappelle quand même que le thème, donc, c'est « Il était une fois ».
Les contes.
Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber.
Voilà. Oui, oui, on a bien axé notre... Donc voilà, alors il y a évidemment quelques autres exposants. Ouais. On a des partenariats, par exemple, avec la Maison de la Magie, mm-hmm. qui a un stand. Et il y a d'ailleurs des ateliers d'initiation à la magie pendant le week-end. Et on peut même aussi gagner des entrées à la Maison de la Magie, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, ce genre de stand qu'on peut avoir. Mm-hmm. On a également un partenariat avec Truffaut. Alors les gens pensent peut-être aux plantes, mais Truffaut, c'est aussi les loisirs créatifs. Donc il y aura des ateliers animés par donc, une équipe du magasin Truffaut. Voilà, sur tout ce qui est... ils ont tout ce qui est matériel à dessiner, colorier, peindre, etc. Donc ils feront également des ateliers.
Très bien.
Donc voilà un peu une idée. Ouais. Il y a un stand... de la bibliothèque municipale de Saint-Gervais. Donc avec, ils animent un coin lecture avec des lectures très régulières pendant les deux jours du salon. Il y a un autre tout petit stand, mais néanmoins important, de la Ligue de l'enseignement et de lire et faire lire. Et là, il y a également des séances de lecture, alors par tranche d'âge, le samedi et le dimanche. Alors celui qui vient au salon et qui s'ennuie...
Non, c'est pas possible.
Il vient me voir.
C'est ça.
J'aurai un badge, on va me reconnaître.
Qu'on se le dise.
Donc voilà un petit peu. Alors j'espère que j'ai oublié personne, sinon je vais vexer du monde. Ça fait toujours
de toute façon, on le redira à la fin de l'émission, voilà. Mais tout le programme est disponible en ligne, hein, j'imagine. Donc,
alors, il va être très rapide. Alors, justement, là, je farfouille mes feuilles parce que le programme, on en est à la dernière relecture.
D'accord.
Donc, il va bientôt sortir.
Ouais.
Dès qu'il est validé, il sera en ligne sur le site de Saint-Gervais.
De Saint-Gervais, voilà. Hein, c'est ça.
Donc, tout bêtement sur la ville de Saint-Gervais, puisque c'est une manifestation organisée par la commune.
Ah oui, oui, oui.
La commune.
On a bien compris.
Ah, là. Par la petite
Madame
commune
la
de Saint-Gervais.
Municipale.
Non, mais c'est vrai que ça a dépassé largement les frontières de... C'est quand on regarde la carte des écoles qui participent, c'est tout le département qui est couvert.
Alors, pour terminer le petit tour de l'édition 2019 de Délire de lire, les personnes sans qui rien n'est possible, quand même, c'est aussi les bénévoles.
Hein? Alors, les personnes sans qui rien n'est possible, ce sont les bénévoles. Et puis, alors, ça, je vais en parler largement parce que c'est un plaisir de parler des bénévoles, mais aussi de tous les partenaires.
Bien
J'en
sûr.
Ai déjà cité pas mal.
Oui.
Alors, il y a évidemment, j'allais dire, c'est peut-être moins élégant, mais c'est important, c'est les partenaires financiers.
Mm-hmm.
Parce que soyons clairs, c'est pas la ville de Saint-Gervais, elle toute seule, qui peut porter
un tel projet. Bien
c'est
sûr,
impossible. Donc on a des aides à tous les niveaux. Ça peut être au niveau national, avec la DRAC, c'est-à-dire la Direction Régionale des Actions Culturelles. C'est au niveau régional, c'est départemental, c'est Aglopolis. Voilà, il y a des aides. La ville de Blois pour toute une logistique, des prêts de matériel. Vineuil, j'en ai déjà parlé, qui est un vrai partenaire. partenaires qui nous aident, même financièrement. Ça vaut la peine de le souligner, parce que à cette époque où on fait attention, ils ont vraiment vu l'intérêt de notre projet. Voilà. Alors, j'ai bien largement parlé de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, parce que ça, c'est important également. Et puis, il y a tous les partenaires. La SOFIA, on n'en parle pas beaucoup. Elle protège les droits des auteurs. Et elle est, disons que c'est le partenaire qui nous aide le plus financièrement. Le Centre national du livre, oui. Voilà, j'ai signé un peu, même le bureau Wallonie-Bruxelles international qui nous aide à faire venir les auteurs de Belgique, parce que voilà, c'était un petit peu loin. Et puis on a des partenaires mécènes qui nous aident financièrement. Et puis je voulais aussi, alors j'ai parlé quand même du département et de Vineuil, et puis d'Aglopolis. Alors, ça va plus loin que d'une histoire de sous. C'est-à-dire que la bibliothèque départementale de Prêt va également, le mercredi après-midi, organiser dans 3 villes du département une rencontre avec un auteur. Mm-hmm. Donc, un atelier dans 3 bibliothèques municipales du département. Et également, dans le cadre des bibliothèques d'Aglopolis, il y a un auteur ou une autrice qui sera reçue à Maurice Genevoix, Marie Desbons, qui sera reçue et qui assurera un atelier également. Donc, il y a quand même... ça va plus loin que l'argent. Il y a un vrai partenariat, une vraie reconnaissance de notre travail.
Oui, oui.
Voilà. Donc, je voulais quand même parler aussi de ça, parce que c'est important.
Oui, oui,
même chose à Vineuil, où il y aura un atelier, il y a l'exposition. Enfin, il se passe pas mal de choses.
Ouais, c'est tout l'intérêt d'un... J'allais dire d'un festival, mais c'est...
Oui, oui, c'est un peu dans cet esprit-là.
C'est
oui.
dans l'esprit de, oui, oui. de faire du réseau et de transmettre.
Exactement. De toute façon, soyons clairs... On parle des bénévoles. D'abord, nous sommes des bénévoles. Un conseiller municipal, par définition, c'est un bénévole pour tout. Là, on a choisi, c'est-à-dire que c'était un projet qu'on avait porté, donc on est volontaire, mais ça veut dire un travail toute l'année. Donc le noyau de base, on est 7-8 à peu près, et on travaille à peu près toute l'année. Mais après, le salon, il n'existerait pas si on n'avait pas derrière. L'année dernière, il y avait à peu près 70 bénévoles, des bénévoles pour monter les expositions. Bon, il faut avoir le compas dans l'œil et accrocher droit les tableaux, mais la bonne volonté, on apprend tout. Pour monter les panneaux sur lesquels on va mettre les expositions, c'est des panneaux de bois, il faut tendre de la toile, etc. Une fois qu'on a les stands, il faut habiller les tables pour que ce soit beau et que tout soit pareil. Donc ça, ce sont des petites mains. Et puis une fois qu'on a tout installé, eh bien, il faut des bénévoles pour accueillir le public, pour orienter le public, pour organiser les inscriptions à tous les ateliers qu'on propose, à toutes les animations qu'on propose, et sans les bénévoles, on ne pourrait pas. C'est-à-dire que la réussite du salon, elle passe bien sûr par notre travail en amont, mais aussi par tout ce travail des bénévoles, qui fait que le public s'y retrouve, il est à l'aise, il est pris en charge, on l'aide, et que tout se passe bien. Donc oui, merci aux bénévoles. Et j'en profite, s'il y a des gens qui s'ennuient vers le 15-17 mars ou un petit peu avant... Mais qui n'hésite pas, qui nous contacte. On est preneurs de nouveaux bénévoles. Voilà.
Ils contactent la commune de Saint-Gervais.
Alors, ils peuvent appeler la commune de Saint-Gervais. Alors, je pourrais donner mon portable, mais je l'ai fichu dans l'eau. Il a des petits problèmes. J'ai peur qu'il ne tienne plus très longtemps. Mais sinon, je peux donner mon adresse mail, si c'est possible au télé.
On mettra tout ça sur le
voilà.
site.
Je peux mettre mon adresse mail et ils peuvent envoyer un message en disant qu'ils sont intéressés.
Voilà. Ouais,
mais sinon, on peut avoir un contact par la mairie de Saint-Gervais.
Oui, et puis, tout à fait possible de passer par là.
Tout à fait.
Bon,
tout à fait.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Catherine.
On n'a pas tout dit du tout.
On n'a pas tout dit, mais je te signale qu'à 45 minutes d'émission, il n'y a pas que toi. Hein
ah bah faut ça, laisser. Je suis déçue.
Ah bah oui, et je m'excuse, mais non.
C'est incroyable cette histoire.
Puisque maintenant, on va laisser la place à la chronique, comme tous les mois, la chronique sur un petit essai politique d'Alice. Et on se retrouve tout de suite après. Et puis tu nous donneras les dernières infos.
Oui, hein, Alice, c'est Alice au Pays des Merveilles.
Bah, exactement, on continue dans Il était une fois.
C'est d'un tout petit livre dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de ces petits livres qu'il faudrait toujours avoir sur soi à l'occasion de conversations, disons, polémiques. Vous savez, ces conversations où on vient vous affirmer que les réfugiés, ils vont bientôt nous envahir, qu'il serait bien mieux chez eux, que l'Europe et la France en particulier ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, parce qu'il faudrait peut-être penser un peu à nos pauvres avant de dépenser tous nos sous pour les autres. Et puis que bon, quand même, vous n'avez qu'à pas venir après tout. Bref, je n'insiste pas, avant que Trump ne remporte la présidence des États-Unis et que Fillon surgisse d'on ne sait où, ces arguments, vous les entendiez à longueur de temps à la radio et à la télé certainement. Et probablement pendant les repas de famille avec votre tonton beauf qui vote FN mais qui n'est pas raciste. Et vous, vous êtes en face à bredouiller, mais tout ce que tu avances est tout à fait faux parce que, oui. Et là, vous avez beau être convaincu, tonton, tata ou votre collègue sont plus forts avec leurs arguments cousus humains. Alors désormais, vous aurez votre boîte magique que vous empresserez de faire surgir de votre sac. Ça s'appelle « Migrants et réfugiés ». Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Ça fait 90 pages et c'est publié aux éditions La Découverte. Les auteurs, ce sont Claire Rodier, juriste au GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, et Catherine Portevin, journaliste à Philosophie Magazine. C'est un petit livre très bien fait, découpé en 23 courts chapitres, comme autant d'interrogations face au phénomène d'afflux de réfugiés en Europe. Ça va de « Migrants réfugiés, quelle est la différence ?» à « L'arrivée des migrants en Europe n'augmente-t-elle pas le terrorisme ?» en passant par « Qu'est-ce qu'un hotspot ?» ou « Est-il vrai que les Syriens sont mieux accueillis que les autres ?» Mais on trouve aussi des questions comme « Quel est le coût de la surveillance des frontières européennes ?» « Quelles mesures a pris l'Union européenne face à la crise migratoire de 2015 ?» ou même « Pourquoi cet afflux soudain ? Aurait-on pu le prévoir ?» Et qu'est-ce qu'on apprend justement ? Eh bien que l'Europe, en organisant la surveillance de ses frontières, notamment maritimes, avec l'agence Frontex, foule au pied la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Car tout pays signataire de la dite convention ne peut refouler une personne qui vient demander protection et qui, donc potentiellement, pourra obtenir son statut de réfugié. Alors quand l'Europe décourage les embarcations d'accoster ou préfère faire un deal économique à 6 milliards d'euros avec la Turquie pour qu'elle retienne les migrants sur son territoire ou qu'elle récupère ceux qui ont réussi à débarquer en Grèce, forcément ça pose question. À propos d'argent d'ailleurs, on apprend que l'Europe, qui n'a officiellement pas les moyens d'accueillir les réfugiés, aurait dépensé 13 milliards d'euros depuis le début des années 2000 à lutter contre l'immigration clandestine, dont 80% à l'expulsion. Le budget de l'agence Frontex, lui, qui surveille les frontières donc, serait passé de 6 millions d'euros en 2004 à 160 millions d'euros en 2015. Si on y ajoute les milliards d'euros offerts à la Turquie, il y a largement de quoi construire quelques abris, sans compter les millions d'euros qui partent officiellement à l'aide au développement, mais qui ont de plus en plus vocation à encourager les États à garder leurs migrants. Enfin, il faut savoir qu'on estime à 15 milliards d'euros l'argent dépensé par les réfugiés pour fuir leur pays. Somme qui pourrait être utilisée dans les pays de destination si on leur accordait des visas, tout simplement, et si elles ne finissaient pas dans les mains des passeurs. Venons-en maintenant au soudain afflux de réfugiés dont serait victime l'Europe depuis 2015. Eh bien, il se trouve que cet afflux aurait pu être anticipé dès le démarrage des printemps arabes en 2011. Mais l'Europe a préféré regarder le Liban et la Turquie accueillir des milliers de réfugiés plutôt que s'y préparer elle-même. On apprend ainsi que le Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années au sujet de la crise syrienne et des déséquilibres en cours en Turquie et au Liban. Et puis cet afflux, regardé depuis notre énorme nombril, est à relativiser. Car la totalité des réfugiés installés dans les 28 pays de l'Europe représente l'équivalent de ce que le Pakistan accueille à lui tout seul. En 2014, le bloc occidental qui regroupe les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et l'Australie a accueilli 15% des 19,5 millions de réfugiés enregistrés dans le monde. En Afrique subsaharienne, ce taux atteignait 25%. À lui tout seul, le Liban a accueilli 1 million de réfugiés sur une population de 4 millions d'habitants. Alors, en termes de sens de l'accueil, l'Europe peut prendre exemple, je pense. Et puis, vous pourrez aussi dire à tonton, tata et votre collègue préféré que la France, la fameuse patrie des droits de l'homme, elle est désormais connue des migrants pour être l'un des pays européens qui les traite le plus mal. Et quand ils vous rétorqueront que les réfugiés n'ont qu'à rester chez eux, demandez-leur un peu s'ils aimeraient vivre sous les bombes et dans le chaos politique et économique provoqué par les politiques étrangères européennes et américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Ah, une dernière chose. Dans Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, on apprend qu'un Danois ou un Britannique peut entrer librement dans 164 pays. Un Russe, dans 94 pays. La plupart des ressortissants africains, eux, ne peuvent pénétrer que dans 4 ou 5 pays. Je vous laisse méditer là-dessus.
Du vent dans les pages sur Studio Zef. Et voilà, alors donc merci beaucoup Alice, encore une fois tu vas nous faire gamberger, hein. Je te remercie. Bon, au mois prochain, hein. J'espère que ça sera aussi intéressant que cet essai. Je rappelle, Migrants
et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, édition de La Découverte. Catherine, tu es toujours avec moi, mais je vais continuer avec un petit conseil BD. Voilà.
Ah oui.
Ouais. J'avais envie de parler de BD, comme à chaque fois dans Du vent dans les pages. Voilà, cette fois-ci, ça s'appelle Ouvrier, mémoire sous l'occupation, en deux tomes de Bruno Lotte, aux éditions La Boîte à Bulles. C'est sorti en 2012. Donc, l'histoire, ça se passe en 1938. Jacques est appelé par le conseil de révision pour intégrer l'armée. Il est réformé et devient ouvrier au chantier de Bordeaux-Bacalan, où il construit des cargos. Il est jeune et profite pleinement de ses moments de liberté en compagnie de son frère Marceau et de sa bande d'amis. Mais le bruit des bottes ne va pas tarder à se faire entendre avec la grande débâcle de juin 40 et les jours sombres volés la liberté de cette jeunesse jusque-là insouciante. Alors Bruno Lotte a réalisé cette bande dessinée d'après les mémoires de son père, Jacques Lotte. Ses souvenirs, il va les confronter avec ceux des autres membres de sa famille et il s'est retrouvé avec le problème des différences de récit, évidemment. Alors il décide de raconter l'histoire telle que son père la lui raconte en respectant le contexte historique de l'époque. Alors j'ai beaucoup aimé cette BD parce que c'est un récit simple, on y travaille, on rêve, on aime et on se bat pour ne pas grandir trop vite malgré les horreurs de la guerre. Le trait m'a fait penser des fois à Tardy. Alors dans des nuances d'anthracite et de rouge, c'est vraiment très instructif et aussi divertissant. Ouais, c'est pas que triste. Voilà, je rappelle Ouvrier, mémoire sous l'occupation, deux tomes de Bruno Lotte aux éditions La Boîte à Bulles, sorti en 2012. Catherine, je te redonne la parole pour cette fin d'émission. T'as encore des choses à nous dire?
Ah, ben ouais. Non, je vais juste résumer en rappelant les dates, les lieux, parce que je crois que c'est important. D'ailleurs, je me suis rendu compte en regardant le petit planning des dates que j'avais complètement oublié de parler du prix littéraire qu'on remettait, qui s'appelle Délire de raconter, qui est un prix littéraire en fait qui est fait par des enfants qui savent pas encore lire. C'est possible. En fait, c'est avec la halte garderie et le relais assistance maternelle. On met 3 livres en jeu. Alors cette année, on a choisi Les Trois Ours, trois versions, et c'est les parents qui lisent, bien sûr, et en fonction de la réaction des enfants, ils savent pour quel livre leur enfant vote. Et c'est comme ça. Et le prix est remis le samedi matin à 11h. Voilà. Alors sinon, le salon. Je vais commencer par une date parce qu'on peut avoir des gens intéressés. Vas-y. La première date, d'abord, le mardi 26 février, donc nous, on fait une présentation du salon, mais qui est suivie par l'inauguration de l'exposition de Benjamin Lacombe à la Maison de la BD. Donc c'est le mardi 26 février à 19h, cette inauguration. Donc déjà, les fans de Benjamin Lacombe peuvent venir dès cette date. Là. Sinon, le mercredi 27 février, c'est-à-dire le lendemain matin, c'est la demi-journée professionnelle, donc là, qui est plutôt réservée aux enseignants, bibliothécaires, aux professionnels de la chaîne du livre ou à ceux qui travaillent dans le graphisme et l'illustration, bien sûr. Alors, cette demi-journée commence à 9h30, elle a lieu elle commence à l'auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire. C'est donc une rencontre avec Benjamin Lacombe. Et cette rencontre est suivie d'une visite commentée de son exposition à la Maison de la BD. Donc voilà, ça c'est une belle demi-journée en perspective. Et puis pour tous, pour le grand public, le salon ouvre ses portes donc le vendredi 15 mars à partir de 16h avec une inauguration à 18h. Donc ça sera ouvert de 16 à 19h le vendredi. Et les deux journées les plus importantes bien sûr, c'est le samedi 16 mars de 10h à 19h. Le dimanche 17 mars de 10h à 17h30. Donc ça se passe à Saint-Gervais. Il y a 2 entrées cette année. On a fait des progrès. Il y avait eu des réflexions l'année dernière. Donc on a ouvert 2 entrées. Une rue Gérard Dubois. Donc c'est en face de l'espace de Reux pour ceux qui connaissent. Donc c'est tout cet ensemble, centre de loisirs, école maternelle, école. Donc tout est là et la salle d'évolution. Et il y a une autre entrée possible maintenant. Ce qu'on appelle rue des écoles, là où se trouve la mairie de Saint-Gervais, juste là, à droite de la mairie, il y a une entrée pour aller au salon. Et on essaiera de flécher des parkings, enfin, on essaie de progresser dans la signalétique également. Voilà, donc vous êtes tous bienvenus, on vous attend avec grande joie.
Merci beaucoup Catherine pour ton enthousiasme et on remettra de toute façon, dès que le programme ça sera sorti, on remettra toutes les coordonnées sur le site de Studio Zef, à la page du vent dans les pages.
Eh bien, c'est parfait.
Voilà. Catherine, juste une petite question. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place et
exact.
Boire un verre?
Oh, comme tu as raison, hein, c'est un autre partenaire.
Parce que c'est quand même important,
c'est bien
ça.
D'avoir... C'est pertinent, ça. En fait, c'est l'association des parents d'élèves qui tient une buvette, mais on peut se restaurer, on peut boire, se restaurer, du chaud, du froid, de tout. Donc, c'est quand même très, très sympa. Donc comme l'année dernière, il y avait du soleil, il y a des familles qui ont passé la journée là, qui ont pique-niqué, puisque c'est de l'herbe. C'est fermé par des grilles, puisque c'est un centre de loisirs, une école, donc les enfants sont protégés, il n'y a pas de risque. Donc, c'est un super bon moment en perspective.
Bon, donc on peut se restaurer,
on peut
restaurer, du salé, du sucré.
Lire, jouer, tout.
Formidable.
Tout. Et toutes les animations, ateliers, spectacles, tout est gratuit.
Voilà, c'est ce que je...
C'est important.
C'était ma dernière question.
Ah oui.
Merci beaucoup. Et puis, je rappelle que toutes les informations donc, de cette émission, eh bien, je les remettrai sur le site de Studio Zef. Cette émission peut se retrouver en podcast sur studiozef.fr. J'ai au moins dit 5 fois Studio Zef, j'adore. Merci Catherine. On se retrouve le mois prochain dans Du vent dans les pages avec Anne cette fois-ci.
Oui. Hein,
voilà, tu changes de casquette et tu nous présenteras
les
auteurs.
Non, je viens pas.
Pas le mois prochain, mais
je suis en train de monter
d'après.
Le salon.
Très bien. On pensera à toi. À bientôt à la radio.
À bientôt.